M'entendez? Bon, soyez bénis. Bien-aimés, vous pouvez prendre place. Bonsoir à tous et à toutes, ceux qui sont présents comme ceux qui sont virtuellement présents. Que le Seigneur vous bénisse en cette soirée et que sa présence soit une bénédiction pour vous et sa parole également. Nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Toute occasion que nous avons de pouvoir plonger nos regards dans la parole, de pouvoir être dans sa présence est toujours quelque chose de précieux, de bénéfique pour chacun d'entre nous. Et on rend grâce au Seigneur pour cela. Je suis de retour, donc moi et ma famille, pour ceux qui ne le savaient pas ou le savaient, bon, le Seigneur nous a permis de passer 3 semaines de vacances en France avec Ingrid, ma sœur aînée, sa famille. Donc, le Seigneur nous a accordé de pouvoir passer du bon temps là-bas et de connaître un petit peu la France, se promener un peu, connaître les régions, sortir un peu de... pas juste rester à Paris. Paris, c'est une chose, mais le reste de la France, c'est une autre chose. Et donc... Le Seigneur nous a permis justement de nous reposer, de nous ressourcer, puis d'avoir du temps, d'avoir cette pause-là avec la famille, les enfants aussi. Et c'était très, très, très bénéfique pour nous. On a fait aussi une petite escale en Islande qui n'était pas prévue au départ, mais les circonstances ont fait en sorte qu'on s'est retrouvés à découvrir ce pays qui est très beau et qui... pour ceux qui sont aimants de la nature, des grands espaces, de beaux paysages à s'y perdre, c'est un coin à aller. Depuis une semaine que je parle juste de l'Islande à tout le monde. Je parle de Jésus aussi, là, mais... c'est pas la destination soleil. Si vous êtes des gens qui, pour vous, c'est les vacances, c'est la plage, le soleil, les pieds dans le sable, eh bien, vous pouvez le faire là-bas. C'est juste que ça va être un petit peu plus froid. Je pense que les températures les plus chaudes sont autour de 15 degrés. Donc, nous, quand on était là, il faisait à peu près entre 2 et 5 degrés avec le vent. Mais ça ne nous a pas empêché, ni les enfants, ni nous, de profiter et de voir la création de Dieu, parce que c'est la nature encore dans son état presque intact. Pas beaucoup de touristes ou d'industries qui sont venus changer le paysage. Donc, remercie le Seigneur pour ce temps. Donc, remercie pour les prières, parce que nous les avons senties tout au long du voyage. Donc, je vous invite à ouvrir la parole dans Luc au chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 11. Luc chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 11, c'est un passage connu. La pêche miraculeuse, l'appel, c'est ce que souvent on ressort de ce passage-là. C'est le moment où Jésus fait une pêche miraculeuse et que c'est le moment aussi où il appelle, dans le fond, Pierre, à le suivre, donc à devenir disciple. Mais aujourd'hui, on va porter notre attention sur d'autres éléments ou sur un angle peut-être un peu différent, mais tout aussi important. J'en profite pour vous demander de la prière pour cette fin de semaine où les jeunes vont aller à un camp, une retraite dans les Laurentides. Priez pour eux, que le Seigneur puisse les toucher. Priez pour également Samy et son équipe pour que tout ce qui était organisé, planifié, puisse bien se dérouler également. Et priez pour moi. Ce n'était pas prévu que j'apporte la parole. Il y avait un frère d'une autre église qui avait été invité, mais finalement, les plans ont changé. Et donc, on m'a demandé de collaborer avec le partage de la parole. Donc, d'avance, je vous remercie pour le soutien dans la prière, pour moi, pour que le Seigneur puisse bien me diriger, m'inspirer, me donner la parole exacte, mais aussi pour que les jeunes soient d'un cœur attentif et réceptif. Amen. Pour que cette fin de semaine soit vraiment une fin de semaine de succès dans le Seigneur. Alors, merci beaucoup. Donc, nous allons faire la lecture maintenant dans Luc au chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Si vous sentez de vous mettre debout pour la lecture, faites-le en respect à la parole du Seigneur et nous procédons à la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie, premièrement, Seigneur, pour cette journée. Te rendons grâce également, Seigneur, pour cette parole, ta parole, qui est vivante, qui est la vérité, qui est efficace, qui est puissante pour toucher, changer nos vies, pour nous parler ce soir. Et c'est ce que nous voulons entendre, Seigneur, ta voix qui parle à notre cœur, qui parle à nos vies. Seigneur, nous voulons être attentifs totalement, Seigneur, à toi, qu'il n'y ait aucune distraction, Seigneur. Et que ce partage de la parole, Seigneur, soit une source de bénédiction dans nos vies, dans nos foyers, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place, bien-aimés. C'est ce que nous avons lu là, c'est un passage qui, dans le fond, est en moi, en méditation depuis déjà plusieurs semaines. Et ce soir, dans le fond, c'est un partage un peu de choses que le Seigneur m'a montré et a attiré mon attention. Vous savez, on peut lire la Bible, on peut lire un passage 1000 fois et à chaque fois, il va y avoir quelque chose de différent que le Seigneur va nous parler. Il va y avoir un message différent, il va y avoir un angle de vue différent. Et c'est ça la beauté et la richesse de la parole. C'est qu'on peut lire un verset, on peut même connaître par cœur les versets, les histoires. Mais à chaque fois qu'on va lire, le Seigneur va nous apporter quelque chose de nouveau. Et ce que j'aimerais apporter ici comme attention, en commençant bien sûr par le verset 1, c'est que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées cette journée-là. Peut-être que c'était sûrement le matin parce que les pêcheurs revenaient d'une nuit de travail, dans le fond. Ils allaient pêcher la nuit et le matin, ils retournaient au port et par la suite, ils pouvaient vendre ce qu'ils avaient pêché, dans le fond. Donc, on peut s'imaginer qu'il y avait déjà beaucoup de monde là parce qu'ils allaient au marché, à la poissonnerie, ils allaient au port pour acheter les poissons. Mais en plus de ça, il y avait toute la multitude de personnes qui étaient là pour une autre raison. Ils n'étaient pas là pour satisfaire leur ventre, pour satisfaire leur faim. Ils étaient là parce qu'ils avaient une autre sorte de faim. Ils étaient là parce qu'ils avaient un autre besoin, beaucoup plus important de ce qui pouvait se passer comme activité dans ce port-là. Et cette fin-là, c'était par rapport à la parole de Dieu. On ne nous dit pas combien de personnes étaient présentes, on nous dit juste qu'il y avait une foule. Donc, on parle qu'il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui, ce matin-là, se sont présentés au port de Génézareth, pardon, pour entendre la parole de Dieu. Il y avait une faim en eux pour entendre, recevoir une parole provenant de Dieu. Et ce qui est important à souligner ici, dans la description qu'on nous donne ici dans la parole, c'est que les gens n'étaient pas là pour Jésus. Puis c'est bizarre à dire parce que les gens suivaient Jésus. Mais la description, l'emphase qui est mise ici n'est pas sur Jésus. Il aurait pu l'être parce que c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. Mais les gens étaient là pour entendre la parole de Dieu. Leur focus, leur attention, leur ambition, leur objectif, c'était de recevoir, oui, quelque chose de Jésus, mais pas n'importe quoi, de recevoir la parole de Dieu. Et ça, pour moi, c'est important de le souligner parce que ce n'est pas la personne qui est devant qui est importante. Ce n'est pas le messager qui est important. C'est le message qui est important. Notre approche par rapport à un enseignement, à une parole, ne doit pas dépendre de qui est la personne qui est devant. On doit plutôt dire, Seigneur, c'est toi qui nous parles. C'est ta parole qui va nous être partagée. Est-ce que j'ai cette faim de recevoir cette parole-là ou non? Il y a des fois, on entend parler des gens dans des discussions, et des fois, ça peut être très, très sain, très innocent. Ou est-ce que des gens vont dire, ah, je peux faire plus quand un tel prêche, ou quand un tel autre prêche, ou qu'un tel autre enseigne. Mais des fois, ce que ça peut cacher, c'est que ça peut cacher inconsciemment que lorsqu'une personne versus une autre apporte un message, on va être plus attentif, on va être plus réceptif. Quand c'est une personne qu'on aime moins, parce que il s'exprime différent parce qu'on n'aime pas comment il est habillé. Bref, il fait trop de blagues ou il ne fait pas assez de blagues. Il lit trop de versets de la Bible ou il fait pas assez de références. Il va trop dans le grec, l'autre va trop dans l'araméen. Il chante trop avant ou il fait de longues prières. Ces éléments-là sont secondaires et on ne doit pas s'y arrêter. L'important pour nous, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Et plus que ça, c'est avons-nous faim de la parole de Dieu? On vient à l'Église. On est présent ici à l'Église. On vient toutes les semaines. On écoute la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu, il va avoir quelque chose pour nous. On a des attentes par rapport à la parole de Dieu. Mais avons-nous faim de la parole de Dieu? Venons-nous à l'Église avec une faim de la parole de Dieu? Lis-tu la parole de Dieu avec une faim, comme cette foule qui était là, pour une chose et une seule et unique raison, c'était d'entendre la parole de Dieu? Et pas juste ça, il disait que la foule se pressait autour de Jésus. C'est-à-dire que ça s'entassait. Ça se bousculait un peu, mais ça mettait une pression sur Jésus. Et ça a attiré mon attention parce que je me suis dit, Jésus n'a pas eu le choix de réagir. Jésus n'a pas eu le choix de peut-être modifier un petit peu son approche cette journée-là parce que, un, il y avait une grande foule qui était assoiffée, mais qui en plus pressait sur lui. Et là, je me suis dit, peut-être que moi, je dois changer mon approche. Peut-être que moi aussi, je dois presser un peu sur Jésus. Ma faim de lui devrait m'amener à le chercher, à aller derrière lui, à être le plus proche de lui, le plus collé à lui, au point qui sente ma pression sur lui un peu. Et je pense que des fois, bon, je pense que des fois, je pense que nous, on gagnerait à mettre cette pression-là sur le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je suis là pour ta parole. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, j'aime ta parole, je veux me nourrir d'elle. Tu as quelque chose pour moi aujourd'hui. Avons-nous cette faim pour la parole de Dieu? Au point où ce que on serait insistant auprès de lui. On vient avec cette attente, de cette recherche, ce désir d'écouter la parole de Dieu. Ou est-ce qu'on vient ici juste par routine, puis qu'on sait qu'il va y avoir une heure, peut-être même plus d'une heure des fois, d'enseignement, puis ça va être beau, ça va être un beau discours, puis après ça, on va retourner dans notre routine. Je pense que cette journée-là a été spéciale parce que tout a commencé avec une foule qui avait faim de Dieu, avec des gens qui avaient faim de la parole du Seigneur. Et ça, il y a un autre élément ici, une autre remarque qui est importante. C'est que il y a des gens qui ont faim de la parole de Dieu. On pourrait penser, en regardant ce qui se passe dans le monde, dans la société, à quel point les valeurs morales, à quel point le monde, la société s'est tellement éloigné des valeurs du christianisme. On pourrait dire, on ferait un constat, il n'y a plus rien à faire. Ils sont trop dans le monde, ils sont trop dans le péché. Ils ne vont jamais vouloir de Dieu. Ils ne seront jamais intéressés. Ils sont trop dans leur péché. Ça a tellement augmenté la violence, la méchanceté, le mal dans le cœur de l'homme que aujourd'hui, la parole de Dieu, il n'y a plus personne qui s'intéresse. On est les seuls survivants là, qui sommes là avec la parole de Dieu. Ce que ce premier verset nous dit, c'est que au même titre que ce matin-là, il y avait des gens qui avaient faim, qui avaient soif de Dieu, encore aujourd'hui en 2022, dans la société qu'on vit, avec toute la perversité, avec toute la méchanceté, avec tout le mal qui est présent dans notre société, il y a dans cette société des gens qui ont faim de la parole de Dieu. Et ça devrait changer complètement notre façon de voir la société, notre façon de voir les gens que nous côtoyons, qui peut-être vivent un style de vie très opposé à la parole de Dieu, justement. Mais on ne sait pas la faim qui peut être dans leur cœur. Et on ne sait pas ce que le partage d'un seul verset, d'une parole, peut provoquer dans leur vie. Et ça, pourquoi ça doit nous amener à changer notre façon de voir les choses? C'est que lorsqu'on on met des jugements sur telle personne ci, telle personne ça, on est en train de marcher par la vue. Nous jugeons par ce que nous voyons. Et le croyant ne doit pas marcher selon la vue. Marche selon la foi. Et la foi, c'est l'espérance, non seulement pour ma vie, mais c'est aussi l'espérance de que Dieu change encore des vies. C'est la foi de que Dieu peut encore transformer des vies. Même si ces gens-là sont complètement au spectre opposé de la parole de Dieu, des valeurs de la parole de Dieu, c'est de croire qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont faim de la parole de Dieu. Mais si nous jugeons par ce que nous voyons, nous sommes nous-mêmes en train de limiter l'œuvre de Dieu et de boycotter ou de saboter notre propre œuvre. Et ça, c'est incohérent, ça n'a pas de sens. Mais bien souvent, on tombe dans ce piège-là. Puis on se dit, il n'y a rien à faire avec cette personne-là. Cette personne-là, jamais elle va venir au Seigneur. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que cette personne-là a soif de Dieu. Peut-être que cette personne-là, justement, cette journée-là, a besoin d'entendre une parole de Dieu. Même si son mode de vie, son style de vie, carrément opposé à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais une chose est sûre, bien-aimés. Une chose doit être claire pour nous. Il y a encore aujourd'hui des gens qui ont faim de la parole de Dieu. Il y a encore aujourd'hui des foules de personnes qui ont besoin et qui ont faim d'entendre la parole de Dieu. C'est la base. C'est la base. Ça commence là. Donc déjà, deux points importants. Un, nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, avons-nous faim de la parole de Dieu? Avons-nous soif de Dieu? Est-ce qu'on veut plus? Je vous disais en introduction que nous avons fait une escale en Islande. Et avec mon épouse, on s'est dit, bon, allons-y. Et dans le pire des cas, on dira, ben il fait trop froid, on n'a pas aimé ça. On a connu l'Islande, c'est fait, on n'y retourne plus. Dans le meilleur des cas, c'est, ben on vient de découvrir une destination, puis on va vouloir en connaître plus. D'après vous, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a été émerveillés par le paysage, par la nature. Puis à chaque fois qu'on conduisait, puis qu'on avançait sur la route, on disait « wow, wow, wow ». C'était que des « wow », constamment. Et on s'est dit « non, il faut qu'on revienne. On doit revenir. Il faut qu'on se planifie un voyage, un bon 10 jours, on se promène dans les volcans, les glaciers, tout ça. Il faut qu'on aille se promener, connaître la nature et tout. » Qu'est-ce que ça a provoqué en nous? Ça a provoqué une faim. Désir de connaître plus. Qui nous motive, ça amène une nouvelle motivation. On se dit, hey, maintenant, c'est pas très loin, c'est à 5 heures, c'est pas trop cher, les billets sont encore bons, hein, profitez-en. Ils sont pas chers, les billets. On se dit, ah, commence à considérer. Quelque chose qu'on ne considérait pas avant, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'on considère avec une grande importance. Si on fait ce parallèle-là avec la parole de Dieu, avons-nous ce même désir de connaître plus de Dieu à tous les jours? Avons-nous ce désir de connaître davantage, de découvrir, de plonger encore plus dans la parole de Dieu à toutes les semaines? Ou est-ce qu'on a pris Dieu et on a pris la parole pour acquis? Dieu ferait tellement de grandes choses au milieu de nous s'il aurait cette faim de lui. S'il aurait cette faim là pour sa parole. Quand on entend les témoignages, les rapports de grands miracles, de conversion en Iran, dans des pays, au Moyen-Orient, en Asie, où est-ce que d'habitude l'Évangile, les portes sont fermées, où les chrétiens sont persécutés, opprimés, tout ça. Pourquoi est-ce que Dieu agit puissamment là? Puis qu'ici, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais tout le temps, c'est que là-bas, les chrétiens, un, sont fervents, et deux, sont passionnés pour le Seigneur. Ils sont passionnés pour sa parole. Veulent toujours en connaître plus. Veulent toujours en expérimenter plus. Et c'est peut-être ça l'élément qui nous manque ici. C'est peut-être ça l'élément qui manque dans ta vie. La faim de Dieu. La soif de Dieu. La quête de chercher plus, de découvrir plus Dieu. Et je suis sûr que les choses que Dieu fait dans les autres pays, des conversions miraculeuses, des miracles, des prodiges, la puissance en on le verrait aussi au milieu de nous. Mais pourquoi est-ce que Dieu ferait des choses au sein de communautés où est-ce que on le prend pour acquis, où on ne le cherche pas vraiment, où on n'a pas cette faim-là, ce désir-là pour lui. C'est important, je pense, qu'on fasse cette réflexion parce que si on manque de sang dans nos vies, on va passer à côté de bien des choses que Dieu veut faire dans nos vies, y compris de nous utiliser dans la société dans laquelle on vit, pour partager la parole avec des gens qui ont faim de Dieu. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu attend après nous et des âmes attendent après nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Ben rien. On vit notre vie d'église, on prend les choses pour acquis, et il n'y a rien qui se passe. Puis des fois, on se plaint à Dieu, on dit, Seigneur, tu ne fais rien, tu es où? Tout ce que je lis dans la Bible, il n'y a rien qui se passe, pourquoi? Ben, peut-être que le Seigneur aujourd'hui nous répond. Il nous dit, si tu aurais un peu faim de moi, si tu aurais un peu soif de moi, tu verrais, tu vivrais, tu pourrais être utile entre mes mains. Bien-aimés, c'est important. C'est important d'avoir cette faim. C'est important de presser aussi auprès de Dieu. La foule a tellement mis de la pression sur Jésus que Jésus a dû trouver une solution. Il a dû s'adapter. La foule a poussé Jésus à bouger. Notre faim, notre désir face à lui va faire en sorte qu'on va forcer Dieu à bouger ou non. Dans ce cas-ci, Jésus a demandé à monter sur une barque puis s'éloigner du bord pour pouvoir parler à tout le monde. Parce que là, il était sur le bord du rivage, là, un pas de plus à l'arrière, puis là, il se retrouvait dans l'eau, tellement que les gens pressaient sur lui. Et donc, Jésus a dû s'adapter et a dit, bon, je vais monter sur une barque, je vais m'éloigner pour pouvoir diffuser, partager à un plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est également ce qui se passe quand les gens ont faim de Dieu. Quand moi, j'ai faim de Dieu, de sa parole, non seulement je vais chercher plus de Dieu, mais également je vais chercher à partager plus sa parole. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux moi-même partager à plus de monde, communiquer d'une meilleure façon. Je ne vais plus être en train d'attendre après ce qu'un tel ou un autre va me dire. Non. Si j'ai cette faim-là dans ma vie, Dieu va me placer là où est-ce que je peux être encore plus utile, puis où est-ce que je peux encore toucher plus de gens, où est-ce que je peux partager à plus de monde, où est-ce que je peux communiquer même mieux le message de l'Évangile, le message de la parole. Dieu donne des idées, Dieu donne des stratégies, Dieu donne des actions, mais il ne va pas le donner à quelqu'un qui ne fait rien. Il ne va pas le donner à quelqu'un qui ne cherche pas. Il ne va pas donner à quelqu'un qui n'a pas cette faim-là de Dieu. Et donc, verset 3, il monte dans l'une de ses barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Comme un changement, une adaptation, un meilleur positionnement pour pouvoir partager mieux et partager à plus de monde. Et les gens, quand on a faim de Dieu, quand on est dans ce mode-là, ben Dieu nous utilise différemment pour toucher plus de personnes et pour être encore un meilleur instrument entre ses mains. Au verset 4, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. La parole de Dieu également dans notre vie, lorsqu'on a faim de Dieu, bien, elle va nous amener, elle va créer les situations où est-ce qu'une réponse va être nécessaire. Jésus, une fois qu'il a fini de parler, d'enseigner, se tourne vers Simon-Pierre, lui dit, on va aller pêcher. Et tu vas jeter tes filets. Comprenons une chose, c'était le matin, ça va être travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pêché, mais absolument rien. Ils ont déjà rangé les filets, ils ont tout lavé, tout est propre. Les autres, c'est juste d'aller à la maison, aller dormir, oublier la journée ou la nuit. Ou est-ce qu'ils n'ont pas eu du succès avec la pêche, puis passer à autre chose. Et voilà que Jésus leur dit, non, on retourne. Mais cette fois-ci, ce sera différent. On retourne. Pierre aurait pu dire, tu sais quoi, non, je suis fatigué, je ne veux plus rien savoir, le fil est là, il est lavé, j'ai tout arrangé. Tu sais quoi, si tu veux aller pêcher, va avec l'autre à côté. Ciao, moi je m'en vais à la maison, je m'en vais dormir, me reposer. Je suis frustré. Imagine la frustration de voir une foule de personnes. Déjà le port le matin, il y a beaucoup d'actions. Puis là, les gens attendent les bateaux arriver. Puis là, ils disent, ah, c'est Pierre qui s'en vient avec son bateau et les gens avec qui il travaille. Puis là, tout d'un coup, ben Pierre, t'as aucun poisson? Il dit, ben non, j'en ai aucun. Imaginez la honte, peut-être. L'humiliation, le malaise que Pierre pouvait avoir. Fait que moi, si dans sa tête ou dans son cœur, il avait juste envie de partir de là, j'aurais compris. Parce que je pense que moi aussi, j'aurais juste voulu ranger les choses, mais m'en aller, pas rester là. De toute façon, j'avais rien à vendre. Mais la parole de Dieu a amené Pierre à prendre une décision, à être dans une situation où est-ce qu'il a dû prendre une décision. Et la parole de Dieu nous amène toujours dans un lieu, dans une position où est-ce que nous avons une décision à prendre. Et Pierre a été très réaliste. Parce qu'il dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit et ça ne s'est pas bien passé. Vraiment pas bien passé. C'était un échec total. Il lui fait voir son état d'âme aussi à travers ça. Ça n'a pas été une obéissance aveugle. Ça n'a pas été sans réflexion. Pierre bien compris ce que Jésus voulait de lui à ce moment-là. Et Pierre aussi a bien partagé sa façon de voir les choses ou comment lui s'est senti. Par contre, il a été capable de mettre ça de côté et de dire, sur ta parole. Sur ta parole. Encore là, ça revient à la parole. Ça revient à avoir faim de la parole de Dieu. Peut-être que si on aurait cette fin de la parole de Dieu, on serait plus obéissant à la parole de Dieu, vous ne croyez pas? On aurait peut-être plus de facilité à appliquer la parole de Dieu comme elle nous enseigne à vivre. Et on dirait comme Pierre dans le fond, Seigneur, j'ai connu que des séries d'échecs dans ce domaine-là. J'ai jamais réussi quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que je le fais pas sur mes forces. Je le fais pas basé sur ma connaissance. Je le fais pas basé sur mon expérience. Je le fais pas basé sur mes compétences. Je le fais pas basé sur mes ressources. Je le fais basé sur ta parole et sur ma foi et mon obéissance à ta parole, Seigneur. Et c'est là la clé avec la parole de Dieu. C'est la foi c'est l'obéissance. La parole peut être donnée. La parole est donnée à toutes les semaines, à tous les dimanches, à tous les mercredis. À tous les jours, il y a un verset, quelque chose qu'on reçoit de la parole. La clé, ce n'est pas juste de la lire. C'est d'y appliquer la foi et l'obéissance. C'est-à-dire, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, je le ferai. Et ça, ça nous amène aussi vers un autre élément, si on va un petit peu plus loin. Parce que c'est ce que Dieu recherche. Dieu recherche l'obéissance à la parole. Ce n'est pas le niveau d'éducation, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les habiletés, ce n'est pas les qualités, ce n'est pas si on a de l'argent, si on n'en a pas. Ce n'est pas ça qui détermine comment est-ce que les choses vont se passer dans notre vie ou comment est-ce que Dieu va agir en nous et à travers nous. Ça va dépendre de notre foi et de notre obéissance à lui. Et lorsqu'on comprend que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, il l'accomplit, tout ce que Dieu commande est exécuté, à ce moment-là, notre approche devrait être différente par rapport à cette même parole-là. On va aller dans Psaume chapitre 33 et le verset 9, juste pour mettre cette perspective-là par rapport à la parole de Dieu, lorsque Dieu dit quelque chose. Et j'espère qu'on va là. Ah, voilà. Donc, Psaume 33, verset 9, « car il dit, sa parole, il dit, et la chose arrive. » Il n'y a pas de « oui, mais ». Il n'y a pas de « on n'est pas trop sûr ». Il n'y a pas de marge d'erreur. T'sais, ça s'applique dans 80% des cas, mais il y a une marge d'erreur de 20%. Qui fait en sorte que ça se peut que des fois, ça marche, et d'autres fois, ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Un mystère de l'univers, mais il faut le vivre et il faut le comprendre de cette façon-là. Non. Le Seigneur, ici, dans sa parole, dit, ce qu'il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ça met la barre très haute, ça met le standard de où est-ce qu'elle est la parole. La parole est dite et prononcée, la chose arrive. La parole ordonne telle chose et cette chose-là existe. Donc ce n'est plus une question de est-ce que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne? Est-ce que je suis gros, je suis maigre, est-ce que je suis grand, je suis petit, est-ce que je suis éduqué ou je ne suis pas éduqué, est-ce que je parle 6 langues ou j'ai la misère à en maîtriser une, est-ce que j'ai des bonnes notes à l'école ou est-ce que j'ai lâché l'école, est-ce que je viens d'un milieu riche ou est-ce que je viens d'un milieu pauvre, ça n'a rien à voir avec ça. La parole de Dieu, elle fait son travail, elle dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. La clé, donc, ce que Dieu s'attend de nous, c'est une réponse de foi. C'est de faire confiance à Dieu et d'être obéissant. Et c'est là où est-ce que nous avons ce point de conflit dans nos vies. Bien souvent. C'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit et qu'est-ce que moi je pense. Cette lutte-là, elle est en nous. La parole de Dieu dit une chose, puis des fois, ça ne nous arrange pas. On trouve que ça ne nous favorise pas. Et on a, ouais, mais moi, j'ai un autre chemin. Ma philosophie, ma logique m'amène ailleurs, m'amène à utiliser un autre moyen que celui que la parole de Dieu me dit. Et j'ai plus confiance, donc, dans ma voix, dans ma logique, dans ma pensée que dans la pensée du Seigneur. Alors qu'il est clair, ce que Dieu dit s'accomplit. ce qu'il y a dans la parole de Dieu s'accomplit. Mais combien de choses nous disons et on ne les accomplit même pas? Combien de promesses nous faisons, nous, et on fait des promesses à nous-mêmes et à d'autres, et on ne tient même pas nos engagements. Ou on se trompe carrément parce qu'on dit, ouais, les choses vont arriver comme ça, puis les choses n'arrivent vraiment pas comme ça, comme on avait planifié. Mais pourtant, on fait plus confiance à notre propre pensée qu'à la pensée de Christ que nous retrouvons dans sa parole. Ce qui est la difficulté dans ça, c'est principalement dû à notre nature orgueilleuse. Parce que dire oui à la parole de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Dire oui à la parole de Dieu, c'est dire non à ma logique, à mon raisonnement, à mes propres forces, à mon intelligence. Et ça amène aussi à s'humilier. Dire oui à Dieu, dire qu'on va appliquer la parole de Dieu. Il y a des gens, des fois, qui parlent, puis on dirait que c'est super facile pour eux obéir la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, j'entends des témoignages, puis là, je me dis, aïe, comment il fait pour lui? On dirait que c'est super facile d'obéir la parole de Dieu. Puis moi, j'ai tellement de misère, des fois. C'est pas facile d'appliquer la parole de Dieu. Ça nous amène à nous humilier, là. Ça nous amène à reconnaître que tous nos diplômes, toutes nos compétences, tout ce qu'on est, ce qu'on a, ça ne sert à rien. C'est pas ce que Dieu recherche, c'est pas ce que Dieu a besoin. Et je peux imaginer Pierre, là au bord du rivage, de voir tout ressortir aux yeux des gens qu'il voit, puis il dit, qu'est-ce qu'il fait là? C'est plus l'heure d'aller pêcher. Tu le sais. Pourquoi tu retournes? En plus, tu n'as rien pêché. Je veux dire, tu vas vivre une deuxième honte. Fait que lui, de devoir obéir, ça nous amène des fois à être humiliés. Noé, lorsqu'il a accepté le mandat de Dieu de construire l'arche parce que Dieu lui avait dit il y a de l'eau qui va tomber, il va pleuvoir. Les gens se moquaient de lui. Pendant 120 ans qu'il a construit l'arche, les gens le regardaient passer puis c'était le fou du village. Pourquoi tu construis ça? En plus, tu le construis ici, il n'y a même pas d'eau ici. Tu vas faire quoi avec ça? T'es fou, Noé. T'es fou. La parole de Dieu, l'appliquer parfois, ça va venir nous chercher, ça va être un défi, parce qu'on sait que les gens vont nous regarder bizarre, parce qu'on sait qu'on va devoir renoncer à notre façon de penser, à nous-mêmes, en d'autres mots. Mais c'est là où est-ce qu'on voit vraiment le fruit et le résultat. Et ce qui est arrivé ici, mais c'est qu'il y a une pêche miraculeuse. Cette obéissance a porté fruit. Cette obéissance a permis même, écoutez ça, l'obéissance a permis un miracle. Le miracle est venu après l'obéissance. Il y a des gens qui négocient avec Dieu et disent, Seigneur, si tu fais telle chose, je ferai telle autre chose. T'sais. Si tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi. En d'autres mots, si tu me donnes le miracle, je serai obéissant. Si tu accomplis ce prodige, cette œuvre-là dans ma vie, Seigneur, je vais te suivre, je vais te servir, je vais te donner ci, je vais te donner ça. Seigneur, je vais obéir ta parole. Je vais la lire à tous les jours. Ou je vais laisser telle chose. Bien souvent, nous, on commet l'erreur de dire, le miracle avant, l'obéissance après. Mais ici, ce n'est pas ça qui est arrivé. L'obéissance est venue avant. Le miracle est venu après. Est-ce que tu attends un miracle? Et je vais finir avec ça. Est-ce que tu attends un miracle de la part de Dieu? Est-ce que tu attends une réponse de la part de Dieu? La question est, es-tu obéissant? Commençons par se poser cette question-là. Sommes-nous obéissants? Nous voulons des prodiges, nous voulons que Dieu fasse de grandes choses. Mais bien aimé, Le miracle va venir après l'obéissance. Après notre décision de dire oui à la parole de Dieu. De dire comme Pierre l'a dit, « Seigneur, ça fait aucun sens ce que tu es en train de me dire. J'ai pas envie de le faire. Je suis fatigué. Je me suis déjà buté à l'échec. Tu me demandes maintenant, toi, sur ta parole, de le faire. Parce que tu me le dis, parce que c'est dans ta parole, je le fais. Parce que c'est toi qui me le dis, Seigneur. Et parce que j'ai cette faim de plus de toi, Seigneur, alors je vais obéir. » On va arrêter ici. Je pense qu'il y a, assez de matière pour pouvoir déjà réfléchir un peu plus là-dessus sur notre marche avec le Seigneur jusqu'à maintenant. On attend des choses peut-être de la part de Dieu, mais Dieu peut-être est en train d'attendre des choses de notre part depuis un moment. Mais tout commence avec notre cœur. Et si on a faim de Dieu, avons-nous faim de Dieu, de sa présence? Ou est-ce qu'on fait les choses religieusement parce qu'on a pris Dieu pour acquis? Ma prière depuis quelques semaines a été, Seigneur, pour moi, mais aussi pour vous, en sachant bien ce que ça peut amener dans nos vies. Je dis, Seigneur, qu'il y ait cette faim-là dans nos cœurs. Qu'il y ait cette soif pour ta présence, Seigneur. Qu'il y ait cette faim pour ta présence, pour ta parole. Et peut-être que ce soir, vous allez pouvoir vous joindre à moi dans cette prière. Dire, Seigneur, je te connais. Ça fait des années que je marche avec toi, mais j'ai perdu cette faim-là. Je te prie pour acquis. Je n'ai même plus passionné pour te découvrir plus, te connaître plus, te chercher plus. Seigneur, j'ai perdu ça à un moment donné dans le chemin. Que je puisse le retrouver. Que tu puisses me le redonner ce soir. Me redonner une fin pour toi. On va prier. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous sommes ici, Seigneur, à tes pieds. Nous reconnaissons, Seigneur, que ta parole est autorité et source, Seigneur, de vie en nous. Pour notre foi, pour notre esprit, pour notre âme, notre corps, pour tout. Seigneur, que la parole est au centre de tout. Et que même la foi que nous professons, cette foi, Seigneur, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, si nous te prenons pour acquis, ou si, Seigneur, nous avons une foi, ou une faim plutôt, de plus de toi. Je prie ce soir, Seigneur, pour l'Église que nous sommes. Seigneur, qu'il y ait cette faim-là de ta présence en nous. Que tu crées, Seigneur, ce désir de te découvrir, de te connaître davantage, de presser sur toi, Seigneur, de t'obliger, Seigneur, à bouger. Tellement on presse sur toi, tellement on a faim de toi qu'on ne te lâche pas, qu'on ne te laisse pas aller, Seigneur. Mets en nous cette faim. Cette soif de ta présence, Seigneur, cette faim pour ta parole. Parce que bien des choses, Seigneur, vont découler de cela, Seigneur, dans nos vies, dans l'Église, dans nos foyers et dans la société, Seigneur, dans laquelle nous vivons. Ouvre nos yeux également spirituels pour ne pas regarder, Seigneur, les choses et ne pas juger, Seigneur, d'après la vue, mais d'après, Seigneur, la foi. La foi qui est nourrie, Seigneur, par ta parole. Cette parole, tu l'envoies et elle fait son travail. Tu ordonnes et la chose existe, Seigneur. Tu dis et les choses arrivent. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle puisse, Seigneur, changer nos vies, nous transformer complètement, Seigneur, et nous mettre, Seigneur, au diapason avec toi. Garde-nous, Seigneur, dans notre tour à la maison. Nous puissions, Seigneur, rentrer en paix. Et Seigneur, que ta parole continue à travailler dans nos vies et dans nos cœurs. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bonne soirée, bon retour. Et la parole de Dieu. Ayons faim de cette parole-là. Que le Seigneur vous bénisse.